les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est l'événement dans la librairie francophone avec un anniversaire, un prix Goncourt, une grande voix de la littérature qui publie pour la jeunesse et un artiste intègre et passionné. Bonjour Bartabas.
Bonjour.
C'est vous l'artiste intègre et passionné. Oh. Depuis plus de 35 ans, vous montez des spectacles avec des chevaux. Vous êtes une référence mondiale. Vous publiez D'un cheval à l'autre chez Gallimard qui raconte... chez Gallimard qui raconte ce parcours et cette communion avec les chevaux. Vous êtes-vous éloigné des hommes au fil du temps, Bartabas?
Je dois dire qu'hélas, oui, un peu. Me rapprocher des chevaux m'a éloigné un peu des hommes petit à petit. Avec l'âge, ça s'arrange pas.
Avec l'âge, vous devenez encore plus dur?
Non, pas dur, mais voilà ce qu'on peut ressentir avec un animal, une espèce d'échange silencieux, comme ça, d'entretien silencieux. Ouais, ouais. Parfois, ça vous enrichit plus qu'un long dialogue avec des humains, mais bon.
Bon, on va tenter un long dialogue avec vous tout à l'heure. Bartabas est dans la librairie francophone cette semaine. L'événement de cet hiver, c'est l'anniversaire du groupe Trio. 25 ans de textes et de chansons engagés, pour l'écologie notamment. Ils sont tous en plateau avec nous et joueront un titre acoustique tout à l'heure. Bonjour Trio.
Bonjour. Salut.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous avez l'air en pleine forme.
Ah bah écoute, oui.
Bon,
oui.
Allez, on va fêter les 25 ans avec vous, ensemble, dans la librairie francophone. C'est un grand plaisir. Le prix Goncourt 2008 à Tigraïmi revient, quant à lui, avec un nouveau récit qui nous emmène au Rwanda. Son film Notre-Dame du Nil vient de sortir sur les écrans. Et puis nous serons avec Paula Jacques, qui publie son premier livre pour la jeunesse. Elle nous raconte l'histoire de l'esclavage aux États-Unis.
La librairie francophone... Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine. En Belgique, c'est Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles. Au Canada, Josiane Letourneau qui est libraire à Montréal dans la librairie du Square. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Pour la France, c'est Sophie Todescato qui est en plateau. Elle a cette chance avec tous les invités aujourd'hui.
Mais oui, bonjour.
Bonjour Sophie, vous êtes libraire à Orléans dans la librairie Les Temps Modernes.
C'est ça.
Et puis il y a Claire Renaud qui représente la Suisse. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Genève, fidèle dans la librairie Atmosphère. Merci d'être
fidèle,
avec nous.
Fidèle, pas sûr. Hein.
Pourquoi pas sûr?
Non, ça dépend dans quel domaine.
Ah, bah vous laissez un mystère.
On en saura plus tout à l'heure.
Qu'est-ce qui se passe? Ça commence
fort.
Qu'est-ce que c'est que ces mystères, Claire? Bon, on verra ensemble. Hein, on verra tout à l'heure. Bon, vous interviendrez tous les quatre tout au long de cette émission.
J'ai beaucoup de mal à trouver des idées. J'ai beaucoup de mal à trouver l'idée. Une fois qu'il y a une idée de base, ça va, ça coule à peu près. Mais c'est horriblement fatigant de faire les dessins. Vous ne trouvez pas.
Et vous dites d'ailleurs qu'une idée, ça s'exploite tout de suite. Par exemple, si vous en avez une là, le temps que l'émission se passe, tout ça, ce sera fini, quoi.
On n'a pas une idée comme ça quand on est avec des gens.
On ne sait jamais, non?
Ah non, c'est une espèce de bienfait du ciel qui
D'accord.
vous tombe sur la tête.
Et ça, dans un cas très particulier, alors?
Non.
Non?
On
ça peut arriver
pourquoi.
À tout moment?
On ne sait pas pourquoi, c'est très curieux.
On commence cette émission par un hommage. Claire Bretéché nous a quittés cette semaine à l'âge de 79 ans. La créatrice d'Agrippine et des Frustrés, cofondatrice avec Gottlieb de l'Écho des Savanes, est donc partie discrètement, sans qu'on s'y attende, sans faire de vagues. Et pourtant, elle s'est battue, Claire, pour que les femmes puissent elles aussi occuper une place centrale dans le petit monde de la BD humoristique. Amis du grand Marcel Gottlieb, ils étaient venus tous les deux s'opposer avec Jeu dans la librairie francophone. Nous diffuserons ce moment de radio unique dont on ne se lasse pas la semaine prochaine. Voilà, ils sont presque tous partis, les piliers de cette génération de créateurs qui osaient tout, qui disaient tout avec force et élégance, avec conviction et détermination. Aujourd'hui, cela passe pour du courage, mais ce n'était pas du courage, c'était la liberté. Bonjour Paula Jacques.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous, la grande voix, la grande figure de la radio française, vous l'avez côtoyée, Claire Bretéché.
Mais à l'époque, je n'étais pas encore la grande voix. Et je dois dire que le jour où je l'ai reçue, j'étais hyper intimidée. D'abord, je la vénérais, comme tout le monde. J'achetais le Nouvel Obs uniquement pour sa page.
Elle était dans la presse aussi.
Et donc, j'étais vraiment très, très impressionnée. Elle est arrivée dans le studio. Et puis, je vous le dirais carrément, j'avais l'impression qu'elle faisait la gueule, quoi.
Ouais. Hein, on avait toujours cette impression.
Voilà, ça. Donc elle s'assoit en face de moi, le temps de régler les micros, elle soupire, elle dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Moi, je savais plus quoi dire, quoi. En plus, j'étais tellement impressionnée parce qu'elle était belle, mais belle à couper le souffle. Et je me suis dit, surtout ne pas embarquer sur les questions politiques, le féminisme, la défense du mariage, les homosexuels, etc. Parce qu'elle va me gifler, quoi. Elle va me gifler carrément. Et puis, finalement, ça s'est passé en douceur. Elle soupirait beaucoup. Je crois qu'elle avait très, très envie de s'en aller, quoi.
Oui, puis elle était angoissée à l'antenne, hein. Ça lui plaisait pas trop d'être au micro. Bonjour Atik Raimi.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, mais aussi artiste, réalisateur de films et peintre, dessinateur. Vous avez un souvenir avec Claire Bretéché, vous, un souvenir personnel?
Un souvenir, mais enfin, c'est pas un souvenir très très personnel. Elle venait juste de publier le dernier volume de Agrippine.
Oui.
Et à ce moment-là, j'avais une fille de 14 ans, donc en pleine crise ado avec sa mère, avec moi, donc... Je dis, ah, ça va apprendre des choses à ma fille. Et d'autant plus parce que moi, comme toujours, je suis nul avec l'argot. Et on m'avait dit que, bah, ça, tu peux apprendre un peu le langage de la jeunesse.
Oui, surtout qu'elle a initié des expressions, absolument, d'ailleurs, qui ont été reprises ensuite par les ados. On va laisser la parole à notre libraire belge, Déborah Damblon, qui elle aussi rend hommage à Claire Bretéché. Déborah.
Mais oui, Emmanuel, j'ai envie de lui parler, de lui dire qu'on l'oubliera pas. Je sais que c'est éculé, mais elle nous a tellement donné, elle nous a enchanté, elle nous a amusé, elle nous a fait rire, et puis elle nous a fait réfléchir, mais vraiment réfléchir. Elle nous a ouvert des voies. Moi, je me rappelle, dans une des compilations des Frustrés, il y a une dédicace, et elle a mis « À celui à qui je dois tout ». Et puis, en dessous, en note, il est mis « Ça coûte pas cher, ça fait plaisir à un tas de gens. » Là, pour moi, c'est elle. Ouais. Merci, Claire.
Bartabas, vous avez baigné, vous m'avez dit avant l'émission, dans cet univers de la BD, et notamment celui de Claire Bretéché.
Oui, bon, c'est-à-dire que moi, j'ai été élevé d'abord tout gamin avec Tintin Spiropilote, puis après L'Écho des savanes, Fluide glacial, Charlie Hebdo, donc c'est... Tous ces auteurs, pour moi, m'ont fait grandir. Mais j'aimais bien plus le rythme comme ça d'une semaine. C'est quelque chose d'assez particulier. C'est pas les albums entiers comme c'est comme maintenant les séries, on les regarde en entier, quoi.
Ouais,
là, il y avait le côté, voilà, c'est la petite réflexion de la semaine, quoi. Ouais. Et ça, c'est un petit rendez-vous très particulier qui crée une relation sur le temps que j'aime bien.
Bon, vous entendrez Claire Bretéché et Gottlieb, tous les deux, ils s'étaient affrontés dans la librairie francophone. On avait organisé ça. C'est un moment incroyable. Ne manquez pas ce moment. Ça sera la semaine prochaine dans l'émission. Merci d'être intervenu. On pense à Claire Bretéché aujourd'hui. Et Paula Jacques, vous publiez donc un livre pour la jeunesse chez Gallimard. Vous racontez aux ados à partir de 12 ans l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. Même les enfants ont été persécutés par les Blancs. C'est un livre sur la mémoire que vous avez écrit.
C'est un livre de fiction, en fait, qui m'a été inspiré à la suite d'une très, très grosse émotion. Tout à fait par hasard, je suis allée voir une expo au musée Maison Rouge, et c'était une expo de 200 poupées fabriquées avec des bouts de tissus, des poupées noires dans toutes sortes de positions. Et c'était tellement émouvant, j'avais l'impression que chacune d'elles racontait une histoire. Et je suis sortie de là, j'étais avec une copine et je lui ai dit « Voilà ce que je vais écrire ». Elle m'a regardée et dit « Mais celle-là, alors, quelle poseuse !» Et je vous assure, Emmanuel, moi qui sue sang et eau sur mes bouquins adultes, j'ai écrit ce bouquin avec une facilité incroyable. Et un plaisir, parce que j'avais jamais... D'abord, je me risquais sur un train que je connaissais pas, l'Amérique. Moi, j'ai toujours parlé de mon terroir natal,
oui, l'Égypte.
Mais je crois qu'on est tellement imprégné de culture américaine, de littérature, de cinéma, qu'on est très très proche, finalement, de tout ça.
Alors, Lizzie a 75 ans, lorsqu'elle reçoit la visite d'une femme blanche, collectionneuse de poupées noires faites par les esclaves des plantations. Elle reconnaît une poupée de son enfance, et à partir de là, elle va nous raconter son histoire. Et on est vraiment dans les champs de côté avec votre livre, Paula Jacques. C'est rude, c'est violent, vous racontez des moments très réalistes. Les ados doivent savoir, ils doivent comprendre cette violence discriminatoire, quitte à écrire pour les adultes.
Je crois que j'ai surtout écrit une histoire qui me touchait profondément. Je n'ai pas tellement pensé au public enfantin, je me suis dit, entre deux mots, il faut choisir le plus simple. Mais cette femme, tout d'un coup... Je sais pas, je me suis identifiée à elle. Et donc, tous ces souvenirs remontent, cette vieille dame qui est à DC Washington toute seule et qui voit ressurgir cette poupée. Et tout d'un coup, elle se souvient du passé. Elle se souvient de l'époque où sa mère, cuisinière dans une plantation, fabriquait ses poupées. Sa mère, grâce auquel elle avait un rang un peu plus privilégié que les autres mômes sur la plantation. Les autres allaient travailler dans les champs, étaient battus, marchaient pieds nus. Mmh. Elle héritait des fringues de sa petite maîtresse, capricieuse, mais enfin, ça allait encore. Et ils avaient un maître pas trop mauvais, disons. Ils les autorisaient à aller à l'église. Donc, mon livre est très, très imprégné de religion.
Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec ces chants que l'on entend derrière, On imagine d'ailleurs les chants d'esclaves. Dans votre livre, tout au long, on est dans cette ambiance-là. Et vous racontez des choses terribles. Pour les ados, c'est difficile, mais c'est la réalité. À l'époque, l'assassinat d'un noir n'est pas considéré comme un crime par la justice des blancs. Même si c'est un enfant, ça se produit dans le livre. Et il y a ce propriétaire, effectivement, de terres et d'esclaves. Sir James, pas si cruel, comme vous dites. Est-ce qu'il y a des degrés de cruauté parmi les gens qui exploitent la main-d'œuvre humaine, Paula Jacques?
Ah, mais c'est certain. C'est certain parce que mon personnage, Sir James Burlington, il fait un peu exception avec les autres. D'abord, il sépare pas les familles. Et il sépare pas le frère de la sœur, il les nourrit à peu près à leur content, aussi pour pas qu'ils s'enfuient, parce que c'est une bonne politique, si on traite à peu près bien ces esclaves, ils vont pas essayer de s'enfuir, de foutre le camp et de foutre la pagaille dans la plantation. Il y a toutes sortes de choses qui s'abattent, parce que moi j'ai voulu un peu recréer une histoire à la Jack London, avec les grands étendues sauvages, parce que tout va se gâter quand le bon maître va partir faire la guerre de sécession.
Avec un certain Abraham Lincoln qui apparaît et qui va changer les choses, c'est
complètement,
vrai. Et dans les églises, vous dites qu'on s'agite, on vitupère. Lincoln, il faut le rappeler, fait ratifier le 13e amendement de la Constitution des États-Unis qui abolit l'esclavage.
Oui.
Et d'ailleurs, il va mourir assassiné 6 jours après.
Exactement, mais ça, c'est, il va y avoir une guerre entre les États du Nord et les États du Sud. Évidemment, les États du Sud sont foudrages parce que qu'est-ce que c'est que ce nouveau président qui prétend donner la terre aux esclaves, qui prétend que les Noirs sont des êtres humains comparables aux Blancs, donc ils partent la fleur au fusil. Ils s'imaginent qu'ils vont régler ça en une semaine et qu'ils vont en finir avec les nordistes. Et puis ça se passe pas du tout comme ça. La guerre va durer 4 ans. Et lorsque le bon maître s'en va, c'est un nouveau régisseur qui prend place dans le domaine, et c'est un type atroce. Alors là, il se passe des choses horribles.
Oui, c'est ça.
Il assassine des enfants, comme vous dites, jamais il n'est inquiété. Et puis, il y a un acte très grave envers la petite fille. Je peux le dire?
Ouais, je sais pas, parce que là, vous dévoilez plein de choses pour la...
Non, mais ça fait rien, il se passe beaucoup de choses.
Ok, d'accord,
allons-y. La mère, telle une guerrière africaine sauvage, tue l'agresseur de son enfant.
C'est ça.
Elle le tue.
On arrête là. On va laisser la parole à nos libraires, Paula, sinon on va raconter tout le livre.
Mais quand même, je veux dire qu'après, il y a toute la fuite pour atteindre
le
nord.
Oui, alors attendez, j'y viens. D'abord, les libraires. D'accord. Il y en a deux qui ont lu votre livre, Paula Jacques, la Suisse et la Belgique. On commence par qui?
Moi, je sais pas, je fais pas de préférence. Hein.
Ben, moi non plus. Alors, la Belgique, allez, allons-y. Allez. Déborah Damblon, c'est à vous.
Ben, Madame Jacques, j'ai envie de dire qu'après la carrière que vous avez faite, entrée en littérature jeunesse, ben, c'était tout ce qui vous manquait. Et de ma bouche, c'est un fameux compliment. Parce que vous l'avez fait avec du roman en plus, et puis du danse, du beau, bravo, bravo. On dirait que vous avez écrit pour les ados, mais toute votre vie, vous avez réussi le mélange parfait. Un sujet pas si souvent abordé, puis du sens, du vrai sens, une histoire qui nous prend au cœur. C'est vraiment une belle, belle, belle réussite. Et j'espère sincèrement que vous n'allez pas vous arrêter là.
Merci.
Claire Renaud pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Alors, je suis un peu plus mitigée.
Ah.
Alors, ce récit, il m'a rappelé mes lectures d'enfance. Il est fort et bouleversant et d'une grande intensité romanesque. Mais je suis désolée, je ne suis pas une lectrice de jeunesse et du coup, je n'ai pas été particulièrement touchée par ce livre.
D'accord.
Mais c'est dû certainement à mon expérience des lectures de jeunesse.
Et pourtant... vous avez oublié votre part d'enfance, madame la libraire.
Et pourtant...
Je suis adulte maintenant, moi.
Pourtant, il est très bien fait, ce livre-là. L'objet en lui-même est magnifique. L'histoire est très érudite. Il y a plein de choses. C'est très éducatif. Et je pense que ça va plaire à un grand nombre d'adolescents et surtout à leurs parents qui vont enfin pouvoir faire passer des messages à leurs gamins qui lisent parfois des choses un petit peu... Bref. Bon, Lizzie, effectivement, et sa maman vont partir. Ils vont fuir. Elles vont fuir avec un jeune homme, Seth, qui est travailleur. Ils vont vers le nord, vers Washington, où l'esclavage a été aboli. Et au cours de leur périple, ils trouvent enfin un peu d'humanité.
Oui.
Enfin, on les considère comme des hommes et on les aide.
Oui.
Et il y a les Quakers. Et
ça, c'est très important.
Très important, qui eux vont se battre à leur niveau, par solidarité, face à l'esclavage.
Et surtout, chez eux, il n'y a pas d'esclaves. Et ils vont donner refuge à ces 3 fugitifs poursuivis par les chasseurs de nègres. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens à qui on offre des récompenses quand les nègres s'enfuient, qui essayent de les rattraper. Et ils vont découvrir chez les Quakers quelque chose d'absolument inouï. C'est-à-dire qu'ils sont absolument traités comme des êtres humains. Ils pensent même à rester tellement... Ils travaillent avec eux et tout se passe très très bien jusqu'au jour où il y a un chasseur de nègres...
Qui va les repérer,
qui pointe son nez, quoi. Donc, la fuite en avant recommence. Mmh.
Alors Dieu dans tout ça, Paula Jacques, parce que vous montrez qu'il est partout, avec les esclaves, ça fait rire Martha Basse, mais je vais me permettre un petit droit...
La césure et Dieu dans tout ça, ouais. Tout ça c'est bien gentil. Mais...
Un petit droit au blasphème, si je peux me permettre, parce que il est partout, c'est complètement absurde. Dieu, en fait, il est du côté des esclaves, du côté des propriétaires d'esclaves, tout le monde joue ce jeu minable, finalement, de la religion, parce qu'au final, elle est où la religion? Il est où Dieu dans tout ça, Paula Jacques, avec tous ces massacres,
en fait,
tous ces gens qui s'opposent dans la même religion? Comment
Emmanuel,
c'est possible,
si vous regardez les Américains aujourd'hui, les modernes, même ceux des grandes villes, ils sont terriblement imprégnés de religion. Je veux dire, leur billet vert, il y a le Dieu là-dessus, d'accord? Oui. Bon, aujourd'hui encore, la religion a une importance énorme. Et on peut dire d'une certaine manière, c'est l'éducation religieuse qui a permis à certains esclaves de lire, d'avancer, d'essayer de se libérer.
Oui, c'était un refuge pour eux aussi.
Complètement. Mmh. Alors moi qui suis complètement athée, je le dis devant Dieu, quoi. Qui me pardonne. En fait, j'ai vraiment essayé de me mettre à l'intérieur d'une vieille femme qui croit en la justice de Dieu, tout en se demandant, mais pourquoi est-ce que Dieu a décidé, c'est écrit dans la Bible, de faire nous des inférieurs?
Eh ben oui.
Donc il y a un questionnement comme ça.
C'est ça. Il y a une vraie question, qui est en filigrane tout au long du livre.
Voilà.
Bon, merci beaucoup, Paula Jacques. On va pas en dire plus. Vous allez rester, bien sûr, avec nous pour assister au grand spectacle de Martha Basse dans quelques instants. Blue Pearl est paru aux éditions Gallimard Jeunesse à partir de 12 ans. Donc, moi, je dirais plutôt 15 ans parce que c'est un petit peu rude quand même. Le livre est magnifique. La couverture est sublime. C'est un objet que l'on a envie d'avoir dans sa bibliothèque. Et en plus, le prix est raisonnable. Les ados apprendront plein de choses. Merci Paula.
Merci, Emmanuel.
Le groupe Trio fête ses 25 ans de carrière dans la librairie francophone cette semaine. Ils joueront tous dans notre studio tout à l'heure. Avant cela, voici un extrait de leur nouvel album qui rassemble les grands noms de la chanson francophone. Voici Trio en duo avec Vianney et Ibrahim Mahalouf pour le titre « Serre-moi ».
Embrasse-moi de support, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je des punaises et tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire autour pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. J'aime tes larmes quand tu aimes, la sueur, le sang, rendons nos amants qui se passionnent, qui se saignent. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile, ceux qui brûlent leur voile.
Trio, Vianney, Ibrahim Mahalouf avec Serre-moi, extrait de l'album des 25 ans. Trio qui est en plateau avec nous et qui jouera un titre acoustique dans notre studio tout à l'heure.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Bartabas est dans la librairie cette semaine pour D'un cheval l'autre, et pas à l'autre. Mais il y a ambiguïté dans votre livre quand même, paru chez Gallimard. Bartabas, vous racontez donc votre vie avec les chevaux. C'est une connexion magnifique, une vie avec eux qui a permis de créer des chefs-d'œuvre avec le théâtre Zingaro notamment. Vous achetez votre premier cheval à l'âge de 19 ans à Alfred Lefebvre, dit l'homme aux 1000 chevaux. C'est à Grosbois en région parisienne, grand centre d'entraînement. Hidalgo a 10 ans et il pèse 600 kilos. Vous dites, je dois respecter ses horaires et ses humeurs. Il m'apprend à penser cheval. Qu'est-ce que c'est penser cheval ?
Ben, c'est déjà côtoyer un animal qui ne parle pas, donc savoir l'écouter d'autant plus et puis s'adapter à lui. C'est un peu comme un enfant, je pense qu'on en est dépendant en fait, quoi. Donc c'est jour et nuit en permanence. Mais bon, l'idée du livre, c'est pas tellement de raconter ma vie, mon œuvre, quoi. Justement, c'est ce que je voulais pas faire. Ouais. C'est plus de raconter, plutôt d'évoquer vraiment le souvenir des sensations, quoi. Je pense que je suis fait des chevaux que j'ai rencontrés. Ouais. Et c'est vraiment très personnel, quoi.
Il y a une animalité dans ce livre. Que vous incarnez totalement, d'ailleurs.
J'ai cherché vraiment à savoir, vraiment par la relation physique, parce que évidemment, la relation avec le cheval passe par le corps, C'est-à-dire que, moi, je pense que c'est pas une relation qui passe par l'intellect, puisqu'il n'y a pas de langage, puisque l'animal ne parle pas avec des mots. Mais c'est vraiment c'est un langage qui passe par l'âme, et l'âme passe par le corps, quoi.
Et vous faites des pactes avec les chevaux. Avec Zingaro, vous avez fait un pacte.
Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où vous prenez un cheval, vous lui enlevez son animalité, comme je dis souvent, et lui, m'a appris à exister auprès des hommes, parce que sans les chevaux, je pense que je n'aurais pas existé auprès des hommes. Les chevaux m'ont servi à exister, ne serait-ce qu'artistiquement, quoi. Donc dans l'autre sens, eux m'ont donné leur animalité. Faire naître son animalité, c'est son humanité chez l'animal. Je veux dire, c'est pas du tout l'animal domestique, c'est pas le chat, le chien qui cherche à vous singer, parce que le cheval n'est pas un animal domestique. Vous le croisez par le travail, quoi, par l'apprentissage, quoi. Et cet apprentissage, vous observez donc le cheval quelque part devenir plus humain, quoi.
Bon, on a une petite surprise pour vous, Bartabas. On va se mettre tout de suite dans l'ambiance de votre livre. On va lire un extrait avec Christophe Mali du groupe Trio qui a accepté cette lecture. Et on a choisi, bien sûr, une musique de l'un de vos spectacles, Bartabas. On va envoyer la musique, Christophe, et je vous fais signe.
Zingaro, mon sang, ma chair, ensemble nous sommes appris, nous éduquant l'un l'autre, jusqu'à s'inventer un langage seulement connu de nous. Ce fut long et laborieux parfois. Tant de maladresse d'abord, de tâtonnements, de vaines tentatives pour se chercher, se comprendre, acquérir tous les gestes qui me fondent aujourd'hui. Nous nous sommes construits petit à petit en marge du voyage, par tous les temps, par tous les lieux, jamais loin des arènes, qu'elles soient de Nîmes ou de Madrid. À toute heure du jour et même de la nuit, nous nous sommes donnés, sans nous préserver, comme un premier amour.
Magnifique lecture de Christophe Mali, félicitations. Ça l'a ému, Christophe, du coup. Il est plus ému que l'auteur.
Non, pas ému, mais c'est bien. Enfin, oui. Je me suis jamais mis à la place d'un cheval, Emmanuel.
Pour raconter à quel point les chevaux sont sensibles à la musique, à leur environnement, mais aussi à leurs souvenirs. Ils vivent en conscience, dites-vous, Bartabas. Il faut les accepter tels qu'ils sont. On ne peut pas vraiment les changer, les chevaux.
Oui, puis les chevaux arrivent avec leur... avec leur douleur aussi, puisque nous, on les élève pas, donc on les a pas, par quelques exceptions. Ils arrivent déjà avec un passé. Et donc, une grande partie du travail, c'est de la psychologie. C'est d'essayer de comprendre comment ils sont faits, ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont souffert. Et ça aussi, c'est un apprentissage. De l'écoute, quoi. Enfin, de toute façon, je dis toujours la même chose. Les chevaux, ils m'ont surtout appris à écouter.
Ouais.
Et je pense que par les temps qui courent, où tout le monde a accès à la parole, parfois exagérément, c'est une qualité première, quoi, de savoir écouter. Parce que souvent, écouter un animal qui ne parle pas avec des mots, ça vous apprend beaucoup sur les humains, à écouter les humains aussi. Parce que souvent, le physique dit le contraire de ce que disent les mots, quoi.
Alors, il y a une vraie connivence entre vous et les chevaux, Bartabas, entre les chevaux eux-mêmes. Il vous arrive d'aller dormir avec eux dans leur box. Alors, il y a une scène très belle, d'ailleurs, dans ce registre-là. Et puis, vous voyez un moment deux chevaux en train de s'aider à se nourrir. Et il y en a un que l'on a mis à la diète. Et son voisin de boxe va lui faire passer de la paille en cachette.
Oui, c'est-à-dire que c'est... Enfin, déjà, je vais souvent la nuit. Je dis souvent, c'est comme un confessionnal, les écuries. C'est-à-dire que c'est la nuit, comme je suis un peu insomniaque, et puis des fois parfois inquiet, maintenant ça va un peu mieux, mais bon. Donc j'allais souvent traîner la nuit dans les écuries, comme ça, en chaussons et en peignoir, et il faut passer des heures à écouter les chevaux rêver, parce que les chevaux rêvent, ouais, les animaux rêvent, hein, faut, donc... Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai découvert quelque chose. C'est un fait qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, quoi. C'est qu'il y avait un cheval, les chevaux dorment sur de la paille, quoi. Il y avait un cheval qui mangeait trop de paille, donc on l'avait mis sur des copeaux de bois.
Oui, quoi. C'est ça.
Et le cheval d'à côté lui passait de la paille à travers les barreaux. Et ça m'a fasciné parce que déjà, ça t'interroge vraiment sur la communication entre les animaux, quoi. C'est-à-dire comment il a su que l'autre avait besoin de glucose. Mmh, mmh. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'il le faisait la nuit en cachette. Oui, donc il avait la notion de l'interdit, quoi. Oui. Et voilà. Bon, quand tu vois ça, que tu comprends ça, ça t'interroge vraiment, quoi, sur le vaste monde qu'est le monde des animaux. Je crois qu'il est beaucoup plus vaste que le monde des humains, hein.
Et vous les avez gaulés, comme on dit. Et du coup, ils se sont arrêtés. Non, mais c'est vrai. Ils s'arrêtent et vous le caressez pour le rassurer.
Bah oui, oui.
Vous
oui.
caressez celui oui. Qui oui. fait de la contrebande en lui disant tout va bien. Bon, les libraires, Bartabas, vous connaissez l'émission. Trois ont lu votre livre, La France, la Belgique et le Canada. On va commencer tout de suite avec la France. Tiens, Sophie Todescato.
Oui, moi, j'ai trouvé que c'était un très beau livre, très bien écrit, qui réussit vraiment le pari de l'écriture. Par exemple, tout ce vocabulaire technique qui pourrait faire obstacle à la lecture, au contraire. Il est très concret, il est très évocateur, il est très sensible aussi. On comprend vraiment que le cheval n'est pas qu'un corps qu'on fait travailler, mais qu'entre l'homme et l'animal, il y a beaucoup, il y a un échange, il y a un don qui relève de la fusion.
Le Canada, Josiane Letourneau.
Eh bien, moi, j'ai vécu quelques instants de confusion en amorçant ma lecture. Je l'avoue, comme un flottement. Il y a certaines scènes qui surgissaient pour moi comme du brouillard, mais la magie qui finit par opérer, elle devient maîtresse absolue dans ces scènes de symbiose entre les êtres que vous nous livrez, et aussi dans les petits détails du quotidien où vous nous révélez le langage, la communion, les gestes. C'est une histoire d'amour, clairement, d'apprivoisement et de reconnaissance mutuelle.
Pendant que le groupe Trio est en train de se préparer, de s'accorder, on va laisser la place à la Belgique, Déborah Damblon à Bruxelles.
Ah oui, oui, quelle écriture, quelle force, quelle puissance, et puis quel sens du spectacle, j'ai envie de dire. Dès les premiers mots, mais je trouve qu'on voit, on sent, on ressent tout ce que vous nous racontez, parce que c'est beau, c'est fort, c'est tellement puissant et fragile à la fois. Moi, j'ai lu votre livre tout ébloui, et puis en retenant mon souffle, et comme si vous étiez arrivé à écrire une version portable et intime de vos spectacles. Et puis, comme dans vos spectacles, ben, on est au-delà des mots, on est au-delà de l'anecdote. Le monde dans lequel ils peuvent nous emporter, j'ai adoré.
Voilà, vous avez séduit nos libraires, Bartabas. Bartabas, on vous dit brutal, caractériel, mais vous révélez dans ce livre une vraie douceur. Et pour vous avoir eu en interview plusieurs fois, hein, en studio, à Versailles ou même dans votre centre d'Aubervilliers, je peux confirmer que vous n'êtes pas celui que l'on décrit, en tout cas, pas toujours comme ça. Et c'est vrai que dans ce livre, vous êtes très doux, très... Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose de particulier, de presque onirique dans votre vie, dans votre écriture.
C'est un peu toute l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que Bartabas, c'est un nom que j'ai avancé devant moi, comme ça, pour quelque part me protéger, exister, quoi. Et c'est vrai que très vite, je me suis trouvé prisonnier de ce nom, un peu. C'est-à-dire ce qu'on a, bon, c'est pas assez, assez classique, hein, d'ailleurs, de ce qu'on attendait de moi. Donc, personnage, et c'est vrai que l'écriture m'a permis de vraiment révéler ce que j'avais à l'intérieur et qui sont pas des choses qu'on peut dire comme ça. Enfin, pour moi, la parole écrite n'est pas une parole qu'on peut balancer comme ça, ni devant un micro, ni devant quelqu'un, même, hein, même les yeux dans les yeux. C'est effectivement, ça permet de montrer, je pense, la profondeur de son âme, moi, je dirais. Ouais.
Vous êtes intimidé par les hommes. Vous dites même avoir mis des distances, avoir gardé vos distances.
Oui, bah vous savez, travailler avec des chevaux, c'est des longs entretiens silencieux tous les matins pendant des dizaines d'années, quoi. Donc moi j'ai besoin de ça, par exemple tous les matins, je ne peux pas parler aux gens tant que j'ai pas eu ma dose, on allait dire tous les matins pendant 3-4 heures, quoi. Mais c'est vrai que pour moi c'est à chaque fois une souffrance. Même venir là, c'est sympa, on se marre bien, mais pour moi c'est assez très stressant en fait.
Ah oui.
Ouais.
Bah vous avez l'habitude, ça va.
Bah non, justement, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec la... Mais bon, je deviens plus sympathique. Ouais, ça m'inquiète.
Ah ouais. Vous n'avez pas toujours été sympa. Moi, je me rappelle d'un entretien à Versailles, vous aviez été rude. Vous vouliez pas faire l'interview, non. Vous nous aviez envoyé balader alors que c'était calé depuis des semaines.
Vous n'êtes pas tombé au bon moment.
Oui, c'est ça. Moi, je m'en souviens, mon collaborateur aussi s'en souvient. Vous écrivez « Dresser un cheval, c'est un travail de tous les jours. Il faut vivre dans l'insatisfaction permanente. Il faut savoir rester barbare. »
C'est un peu tout, c'est toute la vie à Zingaro, c'est ne pas s'installer dans un confort. Je pense que tout artiste qui se respecte est tout le temps perpétuellement en recherche dans son travail. Il ne doit pas se contenter d'une formule qui fonctionne, voilà, et qui peut reproduire à l'infini. Il faut tout le temps creuser, quoi. Je pense que tu n'existes que grâce à ça. Le jour où tu finis de chercher, le jour où tu es satisfait, c'est que tu es dans
le cercueil. C'est fini, c'est vrai. Et c'est valable dans tous les domaines. Merci beaucoup, Bartabas.
Merci voilà. À vous.
On vous soulage. On va écouter un peu de musique, tranquille. Le calvaire est terminé. D'un cheval, l'autre est paru chez Gallimard. On vous retrouvera dans la version télé de la librairie francophone. Vous viendrez en mars aux côtés de Sandrine Bonner, Ratik Rahimi et Imou Vrigny, entre autres. Ce sera comme chaque mois sur RTS 2, RTBF A 3, ICI RTV et TV 5 Monde. Vous allez voir, la télé, c'est encore mieux pour le stress que la radio. Le groupe Trio est dans la librairie francophone pour ses 25 ans de carrière. Ils sont tous les quatre installés dans le grand studio de Radio France pour un titre acoustique qui va vous rappeler des souvenirs. Ils sont face à nous, là, comme ça, en ligne, les quatre, avec les guitares, habillés de noir, de gris. Et vous entendez la guitare, c'est parti. Voici Trio dans la librairie francophone, 25 ans. Bon anniversaire.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Eh les man, faut faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite,
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas,
ici tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre, dis-toi qu'au bout il y a la mer.
Et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi,
comme celui qui vient.
Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal.
Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
C'était Trio qui fête ses 25 ans de carrière dans le studio de la librairie francophone pour ce titre que vous connaissez tous, l'hymne de nos campagnes en version acoustique. Rejoignez-nous en plateau Trio.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
25 ans, le temps est passé, Gizmo, depuis vos débuts du côté de Fresnes et d'Antony. L'hymne de nos campagnes sortira en 1998, 3 ans après vos vrais débuts, avec un succès quasi immédiat. Et déjà, la cause écolo motivait vos textes. On ne vous a pas vraiment pris au sérieux au début, d'ailleurs.
Au début de Trio, l'hymne des campagnes et l'écologie, effectivement, c'était encore un peu... cette image de baba cool, de gens qui s'amusent à fumer des pétards plus qu'à avoir une conscience de ce que pouvait être la planète. Or, effectivement, moi, à cette époque, je rencontre l'association Greenpeace par l'intermédiaire d'une amie. Et puis, ma mère est déjà militante écologiste. Voilà, j'ai la chance de pouvoir bouger entre ma banlieue parisienne et ma mère qui vit à la campagne et de me rendre compte qu'on a une chance inouïe quand on peut mettre un peu les mains dans la terre et sentir et écouter les oiseaux chanter, tout simplement. Voilà, donc cette chanson, elle vient de là, d'un retour de vacances où je me retrouve dans mon quatrième étage de mon immeuble à Cachan. Dans une cité HLM, comme toutes les cités HLM, un peu grise. Et en hiver, en plus, et je me dis, oh là là, mais quelle chance j'ai de pouvoir partir à la campagne. Et faisons attention parce qu'il se passe des trucs bizarres, hein, voilà, avec notre environnement.
Et vous y avez toujours cru, c'est ça votre force. Vous avez aussi maîtrisé votre production et votre diffusion. Ça a pris du temps, du coup, mais ça vous a fait durer, Christophe Mali.
Oui, en fait, c'est notre côté indépendance. Qu'au début, il y a 25 ans, on distribuait nos disques nous-mêmes. 25 ans après, on y est revenu à l'indépendance, puisque voilà, aujourd'hui, avec Trio, nous sommes producteurs de nos concerts, éditeurs, mais aussi, on s'occupe on distribue aussi nous-mêmes nos albums. Voilà, on passe directement avec les fournisseurs.
Ouais, c'est
donc, ça. On réinvente un petit peu cette industrie du disque.
Et le bilan carbone aussi. Vous êtes le premier groupe à avoir établi le bilan carbone de la tournée.
Premier groupe en France.
Ouais. En France, ouais. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Ça a servi à quoi?
En vélo, d'ailleurs, avec le matériel sur le dos.
Pardon,
le
tabac.
Voyage en vélo,
c'est pas possible.
En triporteur.
L'activité humaine, de toute façon, voilà, sans émission de CO2, est absolument impossible. Donc, dans une tournée, on imagine bien. Non, par contre, ce qui était fort, c'est vrai qu'il y a 15 ans, après le bilan carbone, on a pris un certain nombre de mesures. Donc, c'est vrai que, après, on était les premiers à faire les gobelets recyclés, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Les gobelets sur les tournées. Maintenant, c'est chose que tout le monde fait, mais c'est vrai qu'on était les premiers à le faire. Il faut savoir que la plus grosse émission de CO2, ça vient du déplacement du public. Donc, c'est vrai qu'au début, on était les premiers aussi à instaurer le covoiturage, ce qui marchait absolument pas. Du coup, on leur disait, mais vous pouvez même, si vous nous prouvez que vous venez en covoiturage, vous rencontrerez le groupe Trio, et ça ne marchait toujours pas. Et donc voilà, non mais c'est la preuve aussi que pour changer les habitudes, ça prend du temps. Mais en 25 ans, les choses ont évolué au niveau écologique quand même, même si ça n'a pas évolué assez rapidement, les choses ont évolué.
3 millions d'albums vendus, plus de 2000 concerts, des collaborations avec toute la scène francophone, et ce nouvel album illustre cela. 25 artistes interprètent avec vous vos tubes, réarrangés, revisités. Alain Souchon, Véronique Sanson, Big Flo et Oli, Vianney, Zaz, Tiken Jaffa Coli, Bernard Lavillier, Ayo, M, Thiéphène, Renaud, tous ont répondu présents, Daniel Ito.
Mais en fait, c'était... Oui, ils ont tous... en fait, oui, tout à fait. En fait, au début, on ne s'attendait pas qu'ils soient tous présents. Mais du coup, ils ont tous répondu présents. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un double album. Et voilà, en fait, on est parti de la liste des artistes pour voir... pour faire un peu notre tableau de famille idéal.
Et ça a marché.
Et ça a marché. Mmh. Après, on a été voir quelles chansons correspondraient le mieux à chacun.
Et il y en a qui sont fans de vous. Hein. Moi, je vais vous faire une confidence. J'ai assisté à un de vos concerts à côté de Véronique Sanson.
Ah, oui.
Et elle est fan complètement.
Ah, mais c'est vrai que tu étais là.
Mais c'est vrai.
C'était... Mais oui.
Non, mais c'est... On génial. Voyait que Véronique.
Donc... Il est parti dans un truc là.
Non, on voyait que Véronique. Nous, on voyait... Non, mais bien sûr.
Et j'étais à côté. Ouais.
Bah oui. Non, mais Véronique. Bah oui, Véronique. En fait, on l'avait rencontrée sur une promo à La Rochelle.
Oui, c'est ça.
Et puis voilà. Et puis on avait sympathisé. Numéro téléphone. Et puis moi, j'ai envoyé un texto en disant, bon, on joue au Trianon, mais on sait jamais, on se doutait pas ce qu'elle vienne. Et finalement, elle nous a demandé, mais est-ce que Emmanuel Kérald sera là? Alors on a dit, oui, si tu viens, tu seras à côté de lui.
C'est minable. Et voilà. Ce rattrapage est minable.
On est hyper, hyper heureux et fiers de chanter, surtout cette chanson, La Dilafée, qui parle vraiment du combat contre la maladie. Et on est ravis vraiment qu'elle ait répondu présente.
Bon, vous avez une image de groupe de gauche écolo, mais malgré vos engagements avec des associations politisées, vous semblez quand même vous écarter un peu de la politique frontale. Vous avez pris vos distances avec les partis. Vous avez soutenu des personnalités comme François Ruffin, Arlette Laguiller, Eva Joly. Vous n'avez jamais hésité à vous afficher avec ces personnes-là. Est-ce que vous avez pris de la distance avec les partis politiques aujourd'hui?
Alors, je vais, c'est vrai que François Ruffin, c'est un ami, et c'est vrai que quand il s'est présenté, du coup, on l'a soutenu avec Trio, on a joué lors de 5 meetings. Mais après, par rapport aux personnalités, Trio, nous nous sommes affichés avec la création d'Europe Écologie Les Verts à l'époque, c'est ça. Parce que c'était un collectif et que le fait que Daniel Cohn-Bendit soit avec Eva Joly, soit avec Beauvais, etc., c'est quelque chose où on s'est dit voilà, bah ça c'est la politique qu'on aime parce que c'est un mélange, c'est un collectif.
Et ça vous a perdu ou pas à un moment? Vous êtes laissé récupérer ou pas?
Non, c'est récupéré. Mais c'est vrai que le fait de, en tant qu'artiste, et on sait que clairement écolo de gauche, ça nous va. Hein, je pense que voilà, Guillaume se confirme aussi, Daniel aussi. Non, mais ça nous va. Mais après, aussi, hein, ça nous laisse quand même une liberté de ton. Le fait quand même de ne pas être affilié à un parti ou à une personnalité politique. Voilà.
Bon, en tout cas, vous êtes toujours resté intègre, fidèle à vos engagements pour l'écologie et pour l'équité sociale. Comment voyez-vous l'avenir de Trio Gizmo là?
C'est vraiment préparation de Bercy avec une bonne partie des invités de l'album qui vont être là. Donc c'est complet, on est ravis. On va être sur une scène centrale, donc on va être vraiment au milieu des gens. Mmh.
Alors c'est complet, mais tu sais que, d'ailleurs on peut l'annoncer, ça sera diffusé dans tous les cinémas, dans plein de cinémas partout en province, en direct.
Et vous allez partir en tournée francophone. Et on part en tournée.
Voilà, tout à fait.
Au Canada,
bonne série de festivals,
en Suisse, en Belgique, partout
et
partir
puis,
du printemps.
Le Dôme de Paris fin novembre. Très bien. Des dates supplémentaires.
Bon, merci beaucoup Trio. Le double album 25 est disponible en CD sur les plateformes d'écoute en ligne. Bon anniversaire à vous.
Merci.
Vous restez avec nous pour Atik Raimi, c'est tout.
Est-ce que je peux dire simplement
oui, pour la
que... finalement, ça a l'air vachement plus marrant de faire de la musique que d'écrire des bouquins.
Ah, je sais pas. Alors moi, je vais répondre à ça. Tous les auteurs de chansons rêvent d'écrire des livres. Ah, et peut-être qu'il y a beaucoup d'auteurs de livres qui se disent « Ah, mais ça doit être super de chanter des chansons.
Bon, » on a Atik Raimi là, si ça vous embête pas. Allons-y. On est en retard.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Atik Raimi, prix Goncourt 2008 pour Singe et Sabour, publie L'invité du miroir chez POL, un livre au format à l'italienne, un conte rwandais inspiré par le tournage du film Notre-Dame du Nil qui vient de sortir au cinéma. Le Rwanda, pays des mille collines, fait écho à votre pays, l'Afghanistan, et ses mille et une montagnes.
Oui, d'habitude, à chaque fois quand j'écris, quand je fais un film, évidemment, il y a à côté, je dois faire quelque chose d'autre. D'habitude, j'adapte mes propres romans au cinéma, et c'était la première fois que j'adaptais le roman de quelqu'un d'autre.
Oui, de Scholastic
Mokasunga, Notre-Dame du Nil. Donc, j'étais un peu frustré. Et là, cette fois-ci, je fais le mouvement d'inverse, c'est-à-dire, je fais un film, ensuite, en m'inspirant du film, l'image, j'écris ce petit conte, mais qui est un conte lyrique. À vrai dire, toi, là, tous les soirs, j'écrivais un poème, une réflexion, et petit à petit, c'est transformé en sorte
c'est
de
ça.
Conte.
Mais vous faites le parallèle avec l'Afghanistan. C'est intéressant, ça, parce que on se demande pourquoi vous allez sur la thématique du Rwanda et du génocide et vous montrez les points communs, les accointances entre les deux pays.
Bien sûr, au printemps 94, si on se souvient bien de cette époque, il y avait trois horreurs dans le monde. Il y avait la guerre civile en Yougoslavie, la guerre fratricide en Afghanistan et puis le génocide au Rwanda. Donc, à ce moment, j'avais perdu mon frère pendant la guerre en Afghanistan, donc j'étais en deuil de mon frère. Et voyant toutes ces images d'horreur, évidemment, j'étais hanté. J'ai fait pas mal de livres, de films sur l'Afghanistan, et il fallait que maintenant, ailleurs, voir l'autre visage de l'horreur.
Et à chaque fois, vous dites que personne ne sait quoi dire ni quoi faire. Vous écrivez « Certains gardent le silence, d'autres regardent ailleurs ».
Oui, malheureusement, à cette époque, c'est vrai, aussi bien en Afghanistan qu'en Yougoslavie, au Rwanda.
Et au Rwanda, c'est ça.
Ouais. Absolument. Il y avait une sorte de mutisme à l'égard de ces trois horreurs. Et c'était plus tard qu'on s'est rendu compte, mais malheureusement, c'était trop tard.
Et il y a la nature autour qui est flamboyante, qui assiste au massacre. C'est d'ailleurs ce qui interroge tout votre conte en filigrane. La nature, elle est là, au Rwanda, autour du lac Kivu notamment. Et c'est le seul refuge, la nature, à Atik Raimi, le refuge physique et le refuge de l'âme.
Absolument. Notamment, j'étais frappé quand je suis arrivé au Rwanda pour la première fois, évidemment, avec les images que j'avais en tête depuis 94. Mais arrivé là-bas, j'étais surpris. D'abord par cette douceur, cette beauté et ce peuple qui se bat pour arriver à une paix, à une sorte de réconciliation.
À la réconciliation.
Ouais. Absolument. Et puis cette verdure, c'était toujours, on a aussi une image de l'Afrique, les déserts, etc. Mais là, une verdure incroyable.
À propos de l'Afghanistan, vous écrivez dans ce conte qui prend la forme d'un long poème, 40 ans de guerre, plus d'un million de morts, plus de 5 millions d'exilés, je viens du cauchemar de l'humanité où on commet le génocide des femmes, des poètes, des sages et des amoureux. Je vais vous poser une question difficile à Tigraïmi, délicate. Peut-on vraiment comparer le génocide rwandais au génocide social et intellectuel afghan et aux guerres meurtrières afghanes? En substance, y a-t-il des degrés dans l'atrocité?
Bien sûr, bien sûr. Mais je compare pas du tout. Mais c'est vrai que, vous voyez, avec ma naïveté, évidemment, quand j'étais en Afghanistan, je voyais l'apocalypse dans mon pays. C'était au-delà de tous les autres génocides. Vous voyez, c'est quand on vit justement l'horreur, là, il n'y a plus de degrés. Vous voyez,
il n'y a pas d'autres horreurs que la sienne.
Absolument.
Quoi.
Absolument. Donc, Barthes disait une chose extraordinaire. Il disait c'est toujours les blessures personnelles qui nous ouvrent les yeux sur celles des autres.
Bon, les trois libraires ont lu votre livre à Tigraïmi, la Suisse, la France et le Canada. On va commencer avec le Canada. Josiane Letourneau, c'est à vous.
Eh bien, dès le départ, j'ai fait le choix de me laisser porter, de renoncer à tout analyser car le théâtre poétique que vous nous offrez évoque l'histoire, mais aussi des contes, des êtres, des éléments habités par le mythe qui parle davantage au cœur et, j'oserais dire, à l'âme. Merci pour ce lexique plus qu'éclairant en fin de parcours, aux définitions anecdotiques empreintes de sagesse et de richesse. C'est définitivement un livre que je relirai, car je suis sûre qu'il va me révéler quelque chose de nouveau à chaque fois.
La France, Sophie Todescato.
Oui, c'est un livre qui peut sembler au début un peu intimidant parce qu'il est grave, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne vraiment. Une voix poétique, bien sûr. Et même si parfois il y a des choses un peu obscures, j'ai trouvé très belle la manière dont les silhouettes des personnages apparaissent et l'intensité avec laquelle elles prennent la parole.
Claire Renaud, pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver votre écriture si belle et si pleine de poésie. C'est un conte qui rend un bel hommage à ce pays qui a été dévasté par la guerre, qui reste apparemment encore beau, et que j'ai lu comme un espoir de paix grâce à ses procès criminels, entre autres. Vos dessins et croquis accompagnent très bien ce joli livre, j'aime beaucoup le format, et je rajouterai qu'il ne reste plus qu'à découvrir votre film.
Effectivement, le film dont voici un extrait.
Il faut fuir, Virginia.
Non, je ne fuirai pas.
Vous étiez des nobles, autrefois.
Vous tout. Moi, je comprends pas.
C'est difficile de parler du génocide au Rwanda, à Tigraïmi. Vos personnages y renoncent en quelque sorte. Ça ne se formule pas tant c'est atroce. Et pourtant, l'un de vos personnages murmure. Il faut nommer l'horreur. Nommer pour l'identifier. L'identifier pour ne pas l'oublier. Ne pas l'oublier pour ne pas la répéter. Ne pas la revivre.
Absolument. Avant de partir, j'ai lu pas mal d'articles, évidemment sur Rwanda, même sur pas mal d'autres horreurs, et à chaque fois on dit « Ah, c'est une horreur innommable ». Et je suis parti avec ça, bien sûr. Et quand j'étais là-bas, je dis « Non, c'est il faut nommer justement l'horreur ». On essaie toujours de parler avec, bien sûr, des métaphores, etc., etc., ce qui est mon cas à moi aussi, toujours.
Souvent.
Souvent. Mais non, il y a un certain moment où il faut nommer les choses, il faut nommer l'horreur, en effet.
Que fait-on des témoins de l'horreur? Vous posez cette question aussi. Vous dites que le sort du témoin est plus meurtrier encore que celui de la victime.
Absolument. C'était quelque chose que j'avais entendu, justement. Au Rwanda, là, il y avait un homme qui s'était rendu, justement, à Vogel parce qu'il ne voulait pas témoigner.
Ah oui.
Absolument. Il ne voulait pas voir l'aurore, il ne voulait pas témoigner. Vous voyez? C'est parce que. Vous voyez, même aujourd'hui, même dans mon pays d'origine, en Afghanistan, si vous témoignez de l'horreur de quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous serez menacé. Donc, ensuite, on vit dans la clandestinité, malheureusement.
Il y a cette phrase aussi qui va conclure cet entretien à Tigraïmi. Vous écrivez « Tuer un être, un seul, au nom de sa naissance, c'est un génocide, un seul ».
Bah écoutez, justement, l'étymologie du mot génocide, c'est ça. Et tuer la naissance.
Et oui. Bon, merci beaucoup, Atik.
Merci.
Merci à Tigraïmi d'être revenu dans la librairie francophone. On vous retrouvera aussi dans la version télé sur TV5 Monde, RTS2, RTBF La 3, ici RTV au Canada avec Barthabas aussi qui sera là. Merci à Tigraïmi. L'invité du miroir est paru chez POL et votre film est dans les salles actuellement. À bientôt, Atik. la chronique des libraires, avec les coups de gueule et les coups de cœur pour conclure, et un coup de gueule en Suisse, Claire Renaud.
Oui, Emmanuel, lorsque vous entrez dans une librairie et que vous ne savez pas du tout ce que vous voulez acheter, qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous prenez un livre dans la main ?
La couverture, c'est ça ?
Bah oui, la couverture. Alors, mon coup de gueule, il s'adresse à tous les éditeurs de ma région qui n'ont pas su se renouveler depuis plusieurs années et qui nous offrent des couvertures ringardes dans le pire sens du terme. Alors, c'est dommage parce que le sujet peut être intéressant, le livre peut être vraiment bien. Et parce que vous avez en bleu affreux une iconographie épouvantable ou en rouge que vous savez même pas qu'il existe, eh ben, on n'a juste pas envie d'ouvrir l'ouvrage.
Oui,
alors, je fais un appel à tous ces éditeurs. Mon grand sens de l'esthétique est à votre disposition.
En tout cas, les trois livres dont nous avons parlé aujourd'hui sont magnifiques. En tant qu'objet, ils sont sublimes. Donc tout va bien. Autre coup de gueule en France, Sophie Todescato.
Oui, c'est plutôt un coup de tristesse. Je voudrais évoquer la disparition d'un homme de l'ombre qui restera sans doute comme un des plus grands typographes et graphistes de l'édition française. Justement, on parlait de couverture. Il se faisait appeler simplement Massin et il a été un des premiers à rendre le livre beau pour tous. Il a redessiné l'identité de collection qu'on connaît tous. Folio, par exemple, chez Gallimard. En concevant les couvertures comme des affiches, en mettant littéralement le texte en scène comme une œuvre d'art. Alors c'était un amoureux de l'alphabet, un éternel jeune homme qui est mort à 95 ans, et on peut chercher sa trace dans des milliers de livres dans nos bibliothèques.
Allez, on termine avec un coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau.
Mais vous allez me trouver opportuniste, mais oui, j'ai décidé de vous parler du dernier recueil de René Saint-Éloi, publié chez Moment d'Encrier, qui s'intitule « Nous ne trahirons pas le poème » en ce mois de l'histoire des Noirs, pas seulement parce que c'est à propos dans la synchronicité, mais parce que c'est à propos dans l'absolu. Parce qu'en traversant ce recueil, c'est le territoire infini de la poésie que nous parcourons avec le poète. En fait, il y a peu de choses qui ne soient pas nommées dans ces vers humains, intenses, musicaux, tendres et violents comme l'histoire l'est parfois. Et j'ai refermé ce livre avec un mot gravé au cœur et pas le moindre, liberté.
Le grand écrivain et poète Rodney Saint-Éloi, qui publie aux éditions Mémoire d'Encrier, sa maison d'édition. Salut Rodney, qui est un grand fidèle à tous les sens du terme de la librairie francophone. Vous avez raison de parler de ce livre, Nous ne trahirons pas le poème. Merci beaucoup Josiane, merci à tous nos invités. Merci Trio, à très bientôt, à Tigraïmi, Bartabas, Paula Jacques, au revoir.
Merci Emmanuel.
Merci Emmanuel. À très vite.
Il y a un silence qui précède ça. Incroyable.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, voici une découverte musicale francophone avec le chanteur français Le Noiseur et un extrait de L'Origine du Monde.
Quand la nuit est divine, c'est toi ma partenaire. Je suis si près de toi, je suis juste derrière. Clair comme les cimes sur les sombres hivers. Tout au fond de l'abîme, je devine le rose de ta chair. Lèvres grenadines, je fais du lèche-vitrine, tu bombes. Le torse, la poitrine, ma langue élatine, tu grondes. Tes mains se faufilent, légères se dessinent des ombres. Sous tes petits boutines, j'ai vu l'origine du monde. C'est si doux d'où l'on vient, c'est si doux d'où l'on vient. Habibi, Habibi, je veux tes seins. T'es mon doudou, je te tiens, t'es mon doudou, reviens. Habibi, Habibi. La nuit je veux au vent, je me noie dans les mouvements. De ton bassin je m'enfonce dans des sables mouvants. Pris dans les bahines, je pars en exil, je sombre. Sous tes petits blue jeans, revoir l'origine du monde. J'ai plongé dans le spleen de tes yeux bleus piscine. Chaque fois je touche le fond, quand la nuit se termine. La lumière est divine, mon ange, à l'endroit de ta naissance. C'est si doux d'où l'on vient, c'est si doux d'où l'on vient. Habibi, Habibi, je veux tes seins. T'es mon doudou, je te tiens, t'es mon doudou, reviens. Habibi, Habibi.
C'était Le
Benoiseur avec l'origine du monde, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Frédéric Milano avec Julien Dumont et Fabrice Desmaz. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Stéphanie Valois. Annick Chouin et Madeleine Teuchère en Suisse. René Mikils avec Valérie Leput en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Et Christophe Mali de Trio qui est déjà sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, Régis Geoffrey, la Belge Anne-Cécile Houart et un reportage à Montréal avec le grand Robert Lalonde. Et la suite de notre hommage à Claire Bretéché pour un entretien croisé avec Gottlieb. Passez une bonne semaine, un bon week-end. À bientôt, salut.